Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Encore plus de monde hier dans les rues pour protester contre la réforme des retraites. Prochaine mobilisation mardi avec une grève reconductible à la SNCF. Question, le gouvernement peut-il reculer ? L'Info C'est Clair est intitulé « Mobilisation en hausse, le gouvernement dans l'impasse ». Nos invités, Jeff Wittenberg, vous êtes journaliste au service politique de France Télévisions. Sandrine Foulon, vous êtes rédactrice en chef d'Alternatives économiques. À lire sur votre site un grand dossier intitulé « Retraite, les leaders syndicaux en direct du front » avec votre interview des 5 principaux syndicats. Et puis Leïla de Comarmont, vous êtes journaliste sociale pour Les Échos. En une des Échos ce matin, « Retraite, le bras de fer se durcit ». Votre livre est intitulé « Les 20 ans qui ont changé la CGT » et c'est aux éditions de Noël. Merci de participer à cette émission en direct. Donc 1 272 000 personnes ont défilé hier dans toute la France. C'est plus que lors de la première mobilisation du 19 janvier. Fort de ce succès, on l'a dit, les syndicats appellent à 2 nouvelles journées d'action. Ce sera mardi 7 et samedi 11, sujet d'Antoine Delcourt.
Des rues de Lyon bondées jusqu'au centre-ville impraticable de Rennes, en passant par le vieux port de Marseille, noir de monde. Pour cette deuxième journée de mobilisation hier contre la réforme des retraites, plus de 2 800 000 personnes sont descendues dans la rue selon les syndicats, moitié moins d'après le ministère de l'Intérieur. C'est en tout cas davantage que la première mobilisation du 19 janvier. Et partout, le message est clair, pas de report de l'âge légal de départ à 64 ans.
Je vais faire une année de plus pour faire plaisir à certains. Ça me sert, c'est injuste.
Forte mobilisation aussi à Paris, avec 500 000 manifestants d'après les organisateurs, 87 000 pour la préfecture. En tête de cortège, tous les responsables syndicaux unis, déterminés à poursuivre coûte que coûte la mobilisation.
Ce que dit le monde du travail aujourd'hui, c'est qu'on voudrait qu'on parle de notre travail. Et comme on va parler de notre travail, on voudrait vous faire la démonstration que 64 ans, ce n'est pas possible.
De son côté, la Première ministre reconnaît que la réforme suscite des interrogations, des doutes. Nous les entendons, assurait-elle hier en fin de journée. Pas de quoi arrêter le mouvement de contestation. Les syndicats appellent à 2 nouvelles dates de mobilisation, les 7 et 11 février prochains.
Alors Sandrine Foulon, 1 272 000 Français dans la rue. C'est autant qu'en 95 même.
C'est plus qu'en 95, plus. C'est un record qui est battu. Donc il y a plus de monde que le 19, il y a plus de monde qu'en 95. Donc c'est une vraie relégitimation des syndicats. Ouais. On peut dire que c'est une belle réussite, on les donnait perdants, on disait que c'était rétrograde.
Vous disiez qu'ils avaient disparu après les gilets jaunes.
Absolument, qu'ils étaient dépassés par d'autres formes de mobilisation et là ils montrent qu'ils sont tout à fait capables. D'abord, ils ont encore un savoir-faire en matière de gestion des mobilisations. Il n'y a pas eu de fausses notes. Il n'y a pas eu de débordement, enfin très peu. Tous les mots d'ordre, il y a une unité syndicale comme on n'avait jamais connue. Il y a même des syndicats qui disent que, on dit souvent que c'est 12 ans, depuis 12 ans, on n'avait pas vu ça. Force ouvrière, par exemple, dit non, en 2010, on n'était pas tous complètement d'accord. On signait nos communiqués un peu à droite, à gauche, on avait des mots d'ordre un peu différents. Là, il n'y a pas de fausses notes. Tout le monde est vraiment derrière le seul mot d'ordre retraite, enfin retrait de du report de l'âge à 64 ans. C'est quelque chose d'inédit. Et bien sûr, la chose qui est complètement inédite aussi, et qui est très innovante pour les syndicats, c'est qu'il y a eu des cortèges dans les villes moyennes. Il y a beaucoup de salariés du privé qui se sont mobilisés. On a dit aujourd'hui, par exemple, qu'il y a moins de grévistes, parce qu'il y a moins de fonctionnaires. Mais on ne sait pas quel est le nombre de salariés du privé qui ont fait grève, puisqu'on ne peut pas les compter. On peut beaucoup plus compter les salariés, les fonctionnaires, les agents publics, puisqu'il y a des préavis de grève à déposer. Donc là, il faudrait compter. Ce serait intéressant de savoir combien de personnes se sont mobilisées. Et surtout, ce qui fait la différence capitale, c'est qu'il y a toute l'opinion derrière cette mobilisation. En 2010, vous aviez 50% des gens qui étaient pour et 50% contre. Aujourd'hui, vous avez plus de 70% des gens de l'opinion qui sont derrière les syndicats. C'est une force énorme pour eux.
Leïla de Comarmont, c'est le grand retour des syndicats. C'est vrai qu'on avait un peu enterré, on disait « attends, c'est les gilets jaunes, hein, c'est des mouvements, des collectifs comme on dit ». Les syndicats ne sont plus porteurs. Et d'ailleurs, vous diriez que c'est une victoire, c'est la CGT, c'est la CFDT, Quelle est la figure en 95, c'était Bernard Thibault, là, est-ce qu'il y a une figure syndicale ou est-ce que non, ce sont les syndicats?
Alors d'abord, c'est une victoire de l'unité syndicale, alors que le monde politique est éparpillé façon puzzle quand même. Donc il y a un contraste qui est assez saisissant sur ce plan-là. Je pense que effectivement la figure qui apparaît est celle de Laurent Berger pour une raison qui est assez légitime, qui est que la CFDT est devenue le premier syndicat français. Ça s'est arrivé en 2018, mais on peut dire que quelque part le mouvement social l'intègre dans ce conflit-là. C'est aussi, j'ai parlé d'unité syndicale, l'union fait la force. On remarque quand même que dans le débat public, tout a été fait constamment pour tenter d'opposer justement cette CFDT à laquelle colle l'image de syndicat d'accompagnement par rapport à la CGT. Et la réalité,
on a essayé de les diviser.
La réalité, c'est que ça fonctionne. Alors maintenant, on s'interroge sur mais comment vont-ils sortir de la crise ? J'aurais envie de dire que les syndicats. Ouais. Avec l'idée que, et c'est vrai, 72% des Français pensent que le gouvernement ne cédera pas. Et moi, j'aurais envie de dire que 72% des manifestants aussi, sans doute. Hein,
j'ai même 100% pour des manifestants.
Ne céderont pas.
Mais le sujet, il est cette expression du mécontentement avec l'idée du... On doit s'exprimer, on a un devoir de contestation, avec toujours un petit espoir, hein, parce que, rappelez-vous, le CPE, alors le CPE avait une spécificité, c'était un contrat de travail spécifique pour les jeunes, et les jeunes se sont énormément mobilisés, mais le CPE, la loi a été promulguée.
Là, il y avait peu de jeunes.
Alors, moi, je ne dirais pas tout à fait ça. Je dirais qu'il n'y avait quasiment pas de lycéens, très peu d'étudiants. En revanche, je ne sais pas, pour ceux qui ont pu aller dans les cortèges, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes actifs.
D'accord.
Et ça, c'est assez intéressant. On en parlera peut-être sur l'enjeu du rapport au
travail. On va en parler, le rapport au
travail. Mais c'est un élément intéressant. Et pour vous donner juste une petite illustration de l'ampleur du mouvement, je suis allée regarder à Belle-Île-en-Mer, par exemple. À Belle-Île-en-Mer, le 19 janvier, il y a 165 personnes. Et le 31 janvier, il y a 230 personnes. À Cahors... C'est ce que disait Sandrine Foulon sur l'enjeu des villes moyennes. À Cahors, on est à 3700 personnes, un peu plus que le 19 où c'était 3500. Et pour comparer au mouvement de retraite de 2010, il y avait 2000 personnes en 2010.
Qu'est-ce que ça dit, cette mobilisation dans les villes moyennes, d'ailleurs, dont on a beaucoup parlé ?
Je pense qu'on a un peu oublié que la France, c'est aussi une France rurale et que la France rurale, alors Cahors, ce n'est pas la ruralité, hein, mais évidemment, les gens qui viennent sont des gens qui sont autour.
Des villes alentours.
Et que la France rurale, ce n'est pas les agriculteurs, ce n'est pas vrai. La France rurale, c'est une France qui travaille, c'est une France d'ouvriers, c'est une France d'employés. Et c'est celle-ci qui s'exprime avec une possibilité d'expression qui est renforcée par le fait que, vous savez, il y avait entre 240 et 270 points de rendez-vous de défilé. C'est énorme, ça permet aux gens d'y aller. Et puis avec un petit élément assez intéressant sur le développement du télétravail. Ben, quand vous télétravaillez et que vous êtes dans une PME, c'est plus facile de prendre les 2 heures à l'heure du déj pour aller défiler
que quand vous
êtes dans l'entreprise. Alors, cela dit, il faut quand même relativiser. On n'est pas encore au raz-de-marée.
D'accord.
Hein ?
Mais le deuxième jour était plus que réussi.
Plus que réussi.
Ça aurait pu baisser.
Exactement.
Jeff Wittenberg, du coup, c'est vrai que le gouvernement, bon, il savait qu'il allait avoir du monde, mais est-ce que là, quand même, il commence, non pas à paniquer, mais à être moins serein qu'auparavant. D'ailleurs, hier soir, elle a réagi, la Première ministre, pour montrer qu'elle a entendu, qu'elle a pris la mesure du monde qu'il y avait dans la rue.
Et en même temps, il n'y avait pas d'effet de surprise. Le premier jour de manifestation, le 19 janvier, objectivement, le gouvernement ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Cette fois-ci, les prévisions, notamment des renseignements territoriaux, annonçaient une mobilisation encore plus forte. Et c'est ce qui s'est déroulé. Moi, j'allais vous citer l'exemple de Mende, qui est la préfecture de la Lozère, qui a 12 000 habitants et qui avait hier plus de 2 000 personnes dans la rue. Ça fait quand même une personne sur 6. Et ça, effectivement, corrobore cette idée d'une France, de la France profonde, d'une France de tous les territoires qui se mobilisent. Et c'est la difficulté pour le gouvernement. Et la difficulté, on l'a souligné, c'est qu'il y a un front unis. Et cette CFDT qui est là, qui est dans la rue, c'est une véritable épine dans le pied du gouvernement, parce que sur les précédentes réformes, 2010, 2003, 1995, il y avait toujours un front réformiste, finalement, avec lequel on pouvait discuter. Là, il y a un bloc, il y a un mur, et ce mur, pour l'instant, le gouvernement fonce dedans et n'a pas voulu encore le contourner. Vous aviez noté ce week-end que juste avant cette manifestation, Elisabeth Borne avait durci le ton. Sur France Info, elle a expliqué...
Ça n'est pas négociable.
Ça n'est pas négociable. C'est des mots qui ont résonné, qui ont peut-être fait descendre un peu plus de monde dans la rue.
Regardez la une, de Libération. Réforme pas négociable. On voit que les petites phrases, finalement, elles vous reviennent en boomerang.
Et pourtant, quand on regarde l'histoire sociale du pays, peut-être qu'à la fin, il faudra négocier. Donc cette phrase, elle pourra revenir en boomerang. Ouais. Alors, pas négociable, on sait de quoi il s'agit. C'est l'âge de 64 ans. Et si elle le dit, c'est qu'Emmanuel Macron en a fait vraiment le... Ben, il n'y avait pas de totem, soi-disant, mais il y en a un. C'est vraiment cette question de l'âge.
Et d'ailleurs, vous avez entendu dans le reportage, il y avait un monsieur qui a dit au début, 2 années de plus, non pas pour sauver la sécu, mais il dit pour faire plaisir à certains. Mais comme si... finalement, ces 64 ans, c'était pour faire plaisir à Macron.
Et c'est toute la question qui se pose autour de cette réforme, c'est la motivation de cette réforme. Pourquoi, au fond, on l'a fait? Parce que, souvenez-vous des premiers arguments, c'était on travaille plus longtemps, on vit plus longtemps, donc on travaille plus longtemps. Aujourd'hui, on parle davantage d'équilibre des comptes. Gérald Darmanin, dans une interview très remarquée au Parisien, a dit qu'il faut remettre la culture du travail, en quelque sorte. On croyait entendre Nicolas Sarkozy à l'ordre du jour. Et finalement, ceux qui refuseraient cette réforme, ce seraient ceux qui revendiquent le droit à la paresse, cher à Sandrine Rousseau. Donc il y a vraiment une inversion, un changement d'argumentaire du gouvernement qui montre qu'aujourd'hui, il cherche quand même une parade.
Sandrine Foulon, et la suite maintenant? Parce qu'à partir de mardi, donc nouvelle journée de mobilisation, mais on sait que la SNCF veut embrayer sur une grève reconductible. Alors, deux questions d'abord. Est-ce que les salariés sont prêts à embrayer sur une grève reconductible, sachant que ça veut dire du salaire en moins, sachant que le taux de grévistes à la SNCF a diminué quand même de 10 points, 46 à 36%. Et puis, deuxième question, la CFDT serait-elle prête à suivre ce durcissement du jeu syndical? Je cite Laurent Berger, c'était jeudi dernier sur C'est à vous, il ne faut pas entraver le déplacement des Français. Je précise que nous sommes en période de vacances scolaires.
Oui, mais là, pour l'instant, effectivement, c'est un peu le jeu, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer après. Mais pour l'instant, la stratégie syndicale, elle est payante. Alors évidemment, c'est vrai que Balélade Comarmont l'a écrit, c'est un peu la marque de la CFDT, de faire des journées espacées pour que les gens puissent manifester, pour qu'il n'y ait pas de blocage du pays et qu'on ne les taxe pas d'irresponsabilité. Pour l'instant, ça fonctionne et tous les syndicats sont d'accord avec ça. Alors évidemment, vous avez des fédérations qui sont plus ou moins...
musclées.
Oui, voilà.
Envie d'en découdre.
Voilà, mais les confédérations sont là pour retenir un peu les chevaux. Et c'est vrai que la première fois, quand il y a eu cette réussite, tout le monde a dit mais pourquoi on n'y va pas tout de suite? Pourquoi on ne fait pas des grèves reconductibles? Les syndicats se sont tous mis d'accord pour dire non, on continue comme ça. Là, les deux prochaines journées, c'est un peu le même schéma. On est le 7, donc les gens pourront manifester.
C'est le pari de la discipline et de la masse plutôt que, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, de bordélisation du pays.
Mais on a l'impression, on est complètement, c'est ce que vous disiez, on est à front renversé. On a des syndicats qui sont relativement ouverts, qui ont des propositions, qui disent, écoutez, nous, on a des idées pour améliorer le taux des seniors. On a des idées sur la pénibilité. On a des idées à peu près surtout, y compris même pour trouver
mais
de l'argent.
Mais à une condition, c'est d'enlever les 64 ans.
Voilà.
C'est quand même toute la...
Tout à
c'est
fait.
Là-dessus que tout se joue aujourd'hui.
Sauf que le gouvernement dit ce n'est pas négociable, et d'une certaine manière, c'est ça qui est complètement... Quand les syndicats disent on a gagné la bataille de la communication, c'est pas un vain mot. Ils ont gagné la bataille,
pour l'instant,
clairement.
Oui. Pour l'instant,
mais,
oui.
Si vous voulez, plus le gouvernement dit ma réforme doit être équilibrée ou ma réforme est juste... Et les syndicats disent tout simplement « elle est injuste ». Et derrière, vous avez des gens qui se disent « oui, elle est injuste ». Donc, il y aura peut-être des fissures dans le mouvement syndical après, quand il y aura des grèves reconductibles ou pas.
C'est un risque pour le mouvement syndical.
C'est un risque, mais on n'y est pas.
Oui, Comarmont.
Je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a une dynamique intersyndicale au niveau national interprofessionnel qui se refusent à embrayer sur... Parce que ceux qui disent grève reconductible, en réalité, ce qu'il y a derrière, mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'est tellement irréaliste qu'on n'emploie pas le mot, ils pensent grève générale.
Ouais.
Mais comme disent Tout, comme dit tout syndicaliste qui se respecte, qui a conscience des réalités, ça ne se décrète pas. Donc la réalité, c'est que ça ne peut venir que du terrain. Et ce terrain, y compris à la SNCF ou à la RATP...
Comment analyser cette baisse du taux de grévistes à la SNCF quand même? 10 points de moins, idem à l'éducation nationale, idem chez EDF.
Alors, c'est un peu compliqué à analyser. Peut-être qu'ils considèrent que... Vous savez, en 1995, on avait parlé de grève par procuration. Peut-être qu'ils considèrent qu'ils sont un peu fatigués d'avoir toutes ces procurations et que il faut que c'est une réforme qui concerne tout le monde de la même façon et que il faut que ces gens se bougent. Mais je voudrais dire aussi que ce type de mouvement auquel on assiste, c'est un mouvement sur mesure aussi parce que les fédérations vont décider. Mais de la CGT, mais aussi de la CFDT. Enfin, on voit qu'il y a des constructions intersyndicales.
C'est pas Paris qui décide, quand vous dites les fédérations, c'est sur la base. C'est les CGT cheminots, c'est...
Les enjeux de grève, ça se décide sur le terrain. Et c'est les gens qui la font qui doivent la décider. Et ça, c'est quelque chose...
Et Laurent Berger ou Philippe Martinez à Paris, ils sont aux ordres des fédérations.
Ils sont là pour animer le mouvement avec des journées de contestation qui sont des points de repère, notamment dans les secteurs où on ne peut pas faire grève facilement. Après, je vous alerte aussi, vous en avez parlé sur cet enjeu de pouvoir d'achat, qui fait que c'est beaucoup plus difficile. Quand on est à la RATP, qu'on a fait 60 jours de grève en 2019, qu'on a eu du mal à éponger...
Ça veut dire 2 mois de salaire en moins, 60 jours de grève.
Que votre direction a compris qu'il fallait calmer le jeu et a donné du salaire aux conducteurs de bus et un certain nombre d'éléments, effectivement, ça calme le jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un mécontentement... sourd. Et puis, il y a un autre enjeu et qu'exprime assez bien Laurent Berger, c'est que on a un enjeu de popularité du mouvement. Et d'ailleurs, il est par exemple intervenu, vous savez, la CGT Énergie a commencé à dire on va couper le courant à des députés, à des milliardaires. Et ça, ça passait pas très bien.
On essaye de vivre quelques heures, quelques jours. Voilà, il voulait couper Parti-là a suggéré de couper le courant aux milliardaires.
Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils ne coupent pas le courant à des milliardaires. Ils coupent le compteur des sous
aux opérations Robin des Bois.
Exactement. C'est la réanimation de ce qui a existé au début des années 2000. Oui, mais là, on n'est pas sur un... Là, on ne parle pas juridique. On parle
popularité du mouvement.
Popularité du mouvement.
Avec une réponse du gouvernement là-dessus, c'est que ça, on enlève d'une poche... celle des contribuables, pour la donner à d'autres, ceux à qui on offre le courant. Je voudrais juste ajouter quelque chose, Axel, si vous permettez, c'est que les prochaines journées, vous l'aurez noté, c'est le 7 et le 11 février.
Alors, mardi et 7 et samedi 11. Alors,
samedi, parce que justement, c'est ce qui était dit à l'instant, la grève, ça coûte cher. Et vous auriez noté aussi qu'hier, c'était le 31 janvier, que donc ce jour de grève sera impacté sur le salaire du mois prochain et non pas sur le salaire du mois de janvier, comme la grève du 19. Donc, cet aspect-là du pouvoir d'achat et cet aspect-là de... Certes, on ne va pas bordéliser, ou pour reprendre une expression de Laurent Berger prononcée en octobre, on ne va pas créer des emmerdements pour les Français parce que ce n'est pas le but, en tout cas de la CFDT. C'est aussi une question sonnante et trébuchante pour ceux qui font grève. Aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Et donc, c'est la raison pour laquelle, y compris dans les raffineries aussi, qui ont beaucoup de pouvoir, parce que si les raffineries sont bloquées, on sait qu'on peut aboutir à une crise comme on en a connu dans les stations de service. Ça a été 24 heures de grève et non reconduite. Pour l'instant, en tout cas.
Alors, hier, il y avait beaucoup de femmes dans les cortèges, évidemment, parce qu'une étude d'impact a montré qu'elles étaient plus pénalisées que les hommes par cette réforme. Et ce message est parfaitement passé. Sujet de Mathilde Moreau.
Des slogans et des pancartes féministes pour dénoncer une réforme, affirme-t-elle, injuste envers les femmes.
C'est nous qui avons les grossesses, c'est nous qui nous trouvons en arrêt de travail. On évolue beaucoup moins. Donc automatiquement, quand on est en arrêt de travail, on ne cotise pas nos trimestres, il faut les rattraper. Donc effectivement, on est perdante dans l'histoire.
Les femmes, grandes perdantes de cette réforme, c'est aussi le point de vue de Sabrina. Elle est venue avant tout pour accompagner sa mère, âgée de 58 ans. Elle devait bientôt prendre sa retraite.
On est trois filles, elle nous a élevées toutes les trois. Et c'est surtout qu'elle avait pris un congé parental du coup de 3 ans. Et c'est vrai que voilà, elle a commencé très tôt. Et elle va devoir aller jusqu'à 64 ans alors qu'elle était censée avoir carrière longue.
Des femmes en colère soutenues par la jeune génération.
C'est une réforme qui est inégalitaire pour les femmes, notamment pour nos parents. Et on est là pour manifester pour ça.
Des manifestantes qui devraient être de retour dans la rue dès la semaine prochaine.
peut-être expliquer calmement pourquoi est-ce qu'on dit que les femmes sont plus pénalisées que les hommes. C'est parce qu'en fait, quand on, c'est surtout les mères de famille. Hein. Quand on a un enfant, c'est comme si on a 2 ans de cotisation retraite gratuite. Qu'on...
Alors en fait, pour être très clair, vous avez droit à chaque naissance, pour un enfant, vous avez droit à 4 trimestres.
Et
vous avez
ça droit, fait 2 ans.
Oui, et vous avez droit aussi à 4 trimestres pour l'éducation, et qu'on peut donner au père aussi. Hein. Donc, mais en fait, en gros, c'est 8 trimestres pour les femmes, et c'est comme ce sont les femmes qui s'arrêtent le plus pour les congés parentaux, elles ont droit à ces 8 trimestres.
Donc
et
une mère de famille qui a 3 enfants, elle a 6 ans de bonus. Donc très vite, en fait, à 62 ans, elle pouvait partir. Elle
avait tous ses trimestres. C'est-à-dire, effectivement, si elle n'a pas forcément travaillé 43 annuités, enfin, on parle pour la génération 73, ouais. Aujourd'hui, c'est 42 et quelques mois, elle peut partir à 62. Elle remplit les 2 conditions. Voilà. L'âge légal, les 62 ans, et les 43 annuités, grâce à ces majorations accordées par les enfants. Et aujourd'hui, vous avez 33% des femmes qui peuvent partir à 62 ans avec tout leur trimestre. Aujourd'hui, ça fait à peu près 120 000 femmes. Dans ces femmes, il y a beaucoup de mères de famille. Et aujourd'hui, elles ne pourront plus. Cet effet, cette compensation s'annule. Donc les femmes ont très bien compris, ont très vite compris, c'est très clair, qu'elles allaient travailler 1 an, voire 2 ans de plus. Et là, le problème, c'est que effectivement, le gouvernement dit « Mais attendez, on a fait d'autres choses pour les femmes ». C'est vrai, par exemple, Elisabeth Borne dit, il y a 20% des femmes aujourd'hui qui doivent travailler jusqu'à 67 ans. 67 ans, c'est l'âge, ce qu'on appelle d'annulation de la décote, c'est-à-dire c'est l'âge de la retraite.
À taux plein.
Voilà, à taux plein. Et donc, beaucoup de femmes sont obligées, ces 20% sont obligées d'attendre jusqu'à 67 ans parce qu'elles ont des carrières hachées, elles n'ont pas suffisamment cotisé. Mm-hmm. Mais là, ce qui se passe, c'est que elles vont continuer à travailler jusqu'à 67 ans. Rien ne change pour elles, fondamentalement. D'accord. Mais le gouvernement dit, attendez, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, c'est de décaler cet âge de 2 ans.
On n'a pas durci.
Parce qu'en 2010, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de 65 à 67. Voilà. Là, on aurait dû passer à 69.
Voilà, et on ne l'a pas fait.
La pilule est quand même difficile à avaler pour les femmes et pour les hommes aussi, d'ailleurs.
C'est là où, Jeff Wittenberg, on voit bien que le gouvernement s'est emmêlé les pinceaux, s'est pris les pieds dans le tapis avec son discours sur la justice. Parce qu'en fait, dès qu'on ouvre le capot de notre système de retraite, on peut en trouver partout des injustices.
Mais malheureusement pour le gouvernement, il y a eu une gaffe qui ne vous a pas échappé, celle de Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, qui lui-même a reconnu que cette réforme ne serait
plus pénalisante
pour les femmes. Donc après, c'est difficile, on rame un petit peu si un propre membre du gouvernement.
Alors, on peut dire que les 1200 euros minimum par mois, ce sont plus les femmes qui vont en profiter.
Absolument.
C'est pour ça qu'on peut tout
mais
dire.
Mais on peut dire aussi, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes dans les manifestations, on en voit tout le temps, mais là particulièrement, et on entendait ce reportage très éloquent, c'est que les femmes, elles sont surreprésentées dans les métiers qu'on a appelés les premiers de corvée pendant la crise du Covid, les aides-soignantes, les caissières, les métiers mal payés, et donc c'est un peu, disent-elles, pour beaucoup, la double peine. On est mal payé et en plus, on nous pique une partie de notre retraite. Du temps avant de pouvoir partir à la retraite. Donc il y a un véritable sentiment d'injustice, d'où le mur, encore une fois, face auquel se heurte le gouvernement lorsqu'il explique
machiste, quoi.
Que sa réforme est juste. Là, ça ne passe pas sur ce point précis, en tout cas, même puisqu'un ministre lui-même le reconnaît, il y a un souci.
Leïla de Commarmont, est-ce qu'on n'en demande pas trop à cette retraite d'être parfaitement juste, d'atteindre l'idéal suprême de la justice? Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible? Injustices, il y en a partout dans la vie. Il y a des grands, des petits, des beaux, des moches, des laids.
D'abord, je voudrais juste, sur le débat, enfin, sur la question des suites, préciser une chose, c'est que la semaine qui s'annonce va être un tournant, on n'en a pas parlé, notamment parce qu'il y a des mouvements de grève importants qui sont annoncés le 7 février, 6-7 février. Et donc, on va voir comment le mouvement va tourner la semaine prochaine. Mais revenons à cette réforme juste.
Voilà, en fait, le thème de la justice, est-ce que c'était un bon thème pour vendre la réforme aux Français?
En fait, le gouvernement, on a un peu oublié qu'il y a eu une tentative de réforme en 2019 qui s'est fondée sur un principe, c'est un principe de justice, qui était 1 euro cotisé donnera droit au même montant de retraite.
La CFDT l'a prouvé d'ailleurs.
Exactement. Les salariés. Cette fameuse réforme à points. Donc, cet argument de justice, le gouvernement l'a repris pour une réforme qui est en réalité une réforme comptable. Et c'est sans doute une erreur grave, mais on est tous d'accord sur le fait que l'argumentaire du gouvernement a beaucoup varié pendant tous ces mois. Donc ça, c'est le premier élément. Sur peut-être les femmes en particulier. Moi, j'alerte sur le modèle qui sous-tend les mesures. Parce que qui va être pénalisée? Ce sont les femmes actives qui n'ont pas arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Ouais. Celles qui s'arrêtent, on trouve ça normal, et on leur accorde des trimestres dans cette réforme. Donc c'est un modèle. Est-ce que ce modèle correspond encore aujourd'hui au modèle des femmes en France? Je n'en suis pas du tout sûre. Les femmes qui ont des très petites retraites et ont eu des carrières hachées, il y en a, et vous avez parfaitement raison, en particulier d'ailleurs chez les femmes qui sont peu rémunérées. Mais il n'empêche qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des carrières complètes. Et ça, il faut prendre en compte quand même cet aspect-là des choses.
On ne peut pas associer les femmes au fait d'avoir des enfants, ouais. Ce n'est pas seulement ça.
Voilà. Et l'autre aspect, c'est, enfin, les femmes dans les entreprises, elles vivent quelque chose aujourd'hui, qui est l'index d'égalité femmes-hommes. Et cet index, il met en lumière des inégalités, d'une
les
part.
Les femmes sont moins payées.
Voilà. Oui. Il met aussi en lumière
Mais
beaucoup
voyez,
de
donc,
femmes sont surprises des burn-out de leurs employeurs.
On demande beaucoup à la réforme des retraites quand même, parce que dans la vie active, il y a des inégalités hommes-femmes, et c'est comme si c'était à la CNAV, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de réparer ces 40 ans d'inégalités.
Mais c'est un peu le même sujet que sur les seniors, c'est-à-dire mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire, ok, le régime de retraite répare, mais il répare des choses. Est-ce que c'est réglé?
Voilà.
Est-ce que c'est réglé?
En tous les cas, ce qui ressort très souvent dans les manifestations, c'est que l'idée de travailler 2 ans de plus, surtout quand on aura 62, 63, à cet âge-là, vous paraît insupportable. Et c'est ce qu'on entendait beaucoup dans les cortèges hier. Écoutez ce reportage à Douai de Claire Colnay et Melior Mouhama.
Les rues de Douai, noires de monde. Mobilisation historique ce matin, selon les habitants.
Moi, je suis originaire de Douai et je pense que je n'ai jamais vu ça.
Selon les syndicats, environ 5000 personnes ont rejoint la manifestation. C'est plus d'un habitant sur 10. Dans le cortège, beaucoup de salariés de l'industrie, la métallurgie ou encore la logistique. Dans cette ville du bassin minier, ce sont les secteurs qui concentrent le plus d'emplois. Mais ils sont souvent éprouvants, selon Séverine Richer, 44 ans.
Alors moi je travaille en logistique et en fait ce sont des métiers très pénibles où il y a beaucoup de charges lourdes et en fait les gens sont usés au bout déjà de plusieurs années. Donc faire 2 ans de plus, franchement je ne sais pas comment on va faire ça.
La prise en charge de la pénibilité, c'est la préoccupation majeure aussi pour ces salariés d'Amazon. Eux préparent les colis dans un entrepôt.
On a des gestes répétitifs, des accomplissements répétitifs qui, à force de répétition, nous usent.
Production ralentie chez l'un des employeurs les plus emblématiques du secteur, l'usine Renault, où loin de s'essouffler, la mobilisation prend de l'ampleur. Selon ce syndicaliste.
Tous les secteurs sont touchés, aussi bien de l'ouvrier au cadre même. On a même vu aussi dans la manifestation des personnes des bureaux qui d'habitude ne sont jamais dans les manifestations.
À Douai, ces manifestants l'assurent. Ils sont déterminés à poursuivre le mouvement jusqu'à l'abandon de la réforme.
Il n'y a pas que dans les usines que le travail paraît pénible. Je vous propose d'écouter cet enseignant à Toulouse.
Pénible physiquement, on ne tient pas des charges, mais tenir une classe de 30 élèves, on ne tiendra pas le coup. Moi, je sais que je ne tiendrai pas le coup, je commence à fatiguer à 54 ans. Donc on a mal partout et on n'y arrivera pas.
Sandrine Foulon, il le reconnaît, il dit que ce n'est pas pénible physiquement à cet enseignant, mais il y a cette idée que continuer à 63 ans, c'est insupportable.
Oui, parce qu'il y a une charge mentale, il y a les aspects physiques, vos reportages le montrent très bien, quand on est chez Amazon et qu'on doit apporter des charges lourdes, c'est usant et c'est physiquement usant, mais il y a aussi une charge mentale qui est partagée, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, qui est partagée par l'ensemble de la société. C'est pour ça que vous avez des cadres, des employés, des agents de maîtrise, tout le monde est représenté et c'est vrai qu'on a un rapport au travail aujourd'hui qui est plus compliqué.
Il n'y a jamais eu autant que de burn-out. C'est vrai. Alors avant, ça n'existait pas ou c'était le travail qui était moins encombrant psychologiquement?
Mais si, ça existait. Mais là, aujourd'hui, c'est très bien documenté par les études. Vous avez l'étude Summer, vous avez des études qui sont menées par le ministère du Travail, d'ailleurs, qui montrent qu'il y a une intensification du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille plus. On commence plutôt tard maintenant sur le marché du travail. On finit tôt. On a une carrière qui est très dense. Et on a un problème. D'ailleurs, c'est ce que disent tous les syndicats aujourd'hui. Ils disent on met la charrue avant les bœufs parce que le problème aujourd'hui, c'est le travail. C'est pas les retraites. On peut discuter du déficit et autres, mais le problème, c'est le travail. C'est le fait qu'on a un management en France qui est plus à la hauteur, qu'on a un taux d'emploi des seniors qui est très bas, qu'on investit plus sur les gens à partir de 55 ans, on leur donne pas des formations. Donc tout ça, les gens le sentent parfaitement. Et ils se disent, moi, je me vois pas travailler dans ces conditions, un peu plus. Et là, la réponse du gouvernement, c'est de dire, bah si, vous allez le faire, et on discute pas. Et là, il y a des enjeux de pénibilité, on en parle beaucoup, mais tout le monde le sait, il y a eu 4 critères qui ont été supprimés dès l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et là, aujourd'hui, ces 4 critères, des postures pénibles, port de charges lourdes, ce dont le monsieur parlait dans le reportage, c'est pas réintégré. Le gouvernement ne le dit. On va faire un suivi médical. Bon, d'abord, il faudrait qu'il y ait des médecins du travail qui suivent. On va essayer de faire en sorte, on va créer un fonds de prévention. Mais le problème, c'est que les gens vont pouvoir partir à la retraite quand ils seront cassés. C'est ça le problème.
Mais Javid Imbert, même dans les bureaux, on a fait grève chez Renault. Même l'enseignant qui ne porte pas de charge lourde, il en a ras-le-bol. 61% des Français disent préférer gagner moins d'argent, mais disposer de plus de temps libre. Étude IFOP pour la Fondation Jean Jaurès.
Eh bien, ça montre qu'effectivement, le problème, comme on l'a dit, c'est qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Et les premiers qui en sont conscients aujourd'hui, eh bien, ce sont les membres du gouvernement et la majorité eux-mêmes qui sont en train de réfléchir. Ce sera peut-être une porte de sortie, mais on en parlait déjà avant l'élection présidentielle, à une autre façon de considérer le travail. Autant il y a une grande fermeté qui est affichée, en tout cas en surface, en façade, et pour l'instant par la Première ministre sur les 64 ans, autant sur la réforme. Non pas la réforme, mais là, une nouvelle réflexion par rapport au travail. On entend Gabriel Attal, on entend Stanislas Guérini, on entend des personnalités de la majorité s'interroger sur peut-être une autre façon d'aborder le travail. Pourquoi pas la semaine de 4 jours? Je vous assure que c'est une réflexion qui monte dans certains
rangs de la majorité. En Angleterre, ils sont en train d'y songer.
Le problème, c'est que c'est totalement contraire à ce qu'Emmanuel Macron a toujours
dit. Le 31, c'est par le travail et l'engagement que nous réglerons nos problèmes.
À la façon d'un Nicolas Sarkozy, j'y reviens à l'époque, qui a fait du travail sa valeur cardinale. Et là, on a un véritable grand écart entre le dogme un petit peu présidentiel et le pragmatisme des personnalités de la majorité et les remontées du terrain qui, effectivement, Stanislas Guérini, j'y reviens parce que avant d'être ministre de la fonction publique, vous vous en souvenez, il dirigeait La République en marche, devenue depuis Renaissance, et nous avions parlé à l'époque de la campagne présidentielle de cette relation au travail. Et il m'avait dit qu'effectivement, ce qui ne va pas aujourd'hui et ce qui devrait être travaillé, c'est le cas de le dire, dans l'opinion, c'est le regard que portent les Français par rapport à leur entreprise, et y compris dans des travaux où on ne porte pas de charge, dans des travaux où la pression mentale est très forte, et que c'est cela qu'il faudrait changer à l'avenir. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout, et ce message n'est pas du tout passé. Il est totalement contradictoire avec ce qui vient d'en haut d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne.
Alors, Sandrine Foulon, vous parliez, vous interrogiez sur le management. Je vous propose d'écouter François Bayrou, le président du Modem, qui justement a sa petite idée sur pourquoi les Français attendent avec autant d'espérance le départ en retraite. On écoute le président du Modem, c'était dimanche sur France Inter.
Pourquoi est-ce que beaucoup de gens sont impatients de partir à la retraite? Parce que le travail dont ils ont la charge ne correspond plus à leurs attentes. Est-ce qu'on a en France, c'est un sujet très important, est-ce qu'on a en France suffisamment d'évolution quand on est dans une entreprise ou dans une administration ou dans le service public? Ou bien est-ce qu'à la fin, ça devient tellement routinier que ça devient pesant et que le seul horizon pour échapper à cette usure-là, c'est la retraite?
Leïla de Commarmont, la retraite pour sortir de la routine et d'un management bloquant, bloqué, ou d'ailleurs dans la fonction publique, c'est déprimant, on rentre, on a sa carrière qui est tracée jusqu'à la retraite, non?
Oui.
Il n'y a pas de folie.
En même temps, François Bayrou parle de carrière. Mais le problème du travail, il est un problème sur le contenu même de ce travail. C'est pas seulement la perspective de pouvoir progresser. Alors évidemment, il y a un enjeu salarial. Hein, mais les travaux de sociologues, il y a notamment un sociologue qui s'appelle Yves Clos qui a travaillé sur ce qu'il appelle le travail empêché. C'est-à-dire les salariés qui sont empêchés de bien faire leur travail par des normes, par des directives qui sont parfois contradictoires, par une promesse d'autonomie et en même temps un management par objectif qui est tellement pressant que le salarié ne trouve pas son compte.
Et dans les banques, il paraît qu'il y a des démissions tellement il y a des objectifs de vente qui qui harcèlent les pauvres commerciaux dans les banques et les assurances et qu'ils en rendent leur tablier. C'est ça dont vous parlez ?
Je parle de ça. Je parle aussi de l'ouvrier sur la chaîne à qui on demande beaucoup plus de compétences et d'autonomie, mais à qui on ne demande pas forcément de contribuer aux innovations, parce que le travailleur, il a des idées sur son travail. Je voudrais juste signaler à propos de ça que vous écouterez les syndicalistes aujourd'hui. Ils ne parlent plus de salariés, ils sont revenus au concept de travailleurs.
Absolument.
Ils ont pris conscience il y a plusieurs années déjà, eux, de la nécessité de travailler sur le travail. Et d'ailleurs, le gouvernement a tenté un geste vis-à-vis de la CFDT, en installant des assises du travail dont on verra bien si elles donnent quelque chose. La difficulté, c'est que cette thématique-là, ce n'est pas un truc qu'on peut régler à coup de mesures emblématiques. Ouais. Ce qu'expriment en fait les manifestants, c'est une difficulté sans doute à verbaliser la difficulté du rapport au travail. Et je pense que François Bayrou, pour ça, il a une remarque assez juste. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On pense au non-travail, on pense à la retraite. Ouais.
Mais Sandrine Foulon, est-ce que c'est que le management qui est en cause ? Il y avait un reportage hier dans Les Échos sur pourquoi les conducteurs de bus démissionnaient. Ben, ils disaient, c'est pas tant le management au-dessus, ce sont souvent les clients, nous-mêmes, nous sommes dans une société où tout le client est devenu impatient, et la conductrice de bus qui avait démissionné disait, j'en avais assez de me faire engueuler du matin au soir par les passagers impatients qui me crachaient dessus, qui me frappaient, etc. Enfin, qui frappaient à la porte, quoi.
Mais oui, mais c'est aussi le rôle du management de faire en sorte que les conditions de travail soient acceptables. Ouais. C'est-à-dire que si vous mettez tout le temps des objectifs chiffrés, des objectifs de rentabilité, si vous changez pas les horaires, en l'occurrence pour les conducteurs de bus, si vous faites 2 heures le matin, 2 heures le soir, avec rien entre, c'est très démotivant. Mais c'est pareil, c'est pareil dans le public, les infirmières, c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles sont plus capables de faire leur métier, elles le disent, elles en souffrent parce qu'on leur dit faut rentrer des données dans un ordinateur. Voilà, il y a des objectifs chiffrés à tenir. Et ça, c'est le rôle du management de dire on arrête ça, on revient au travail, on n'a plus un travail prescrit, on a un travail qui a du sens. Et ça, juste pour rebondir sur ce que disait Leïla de Commarmont, les syndicats l'ont extrêmement bien compris. Laurent Berger le dit, mais d'autres aussi. S'ils veulent regagner des adhérents, c'est par le travail. C'est-à-dire que là où ils gagnent, c'est quand ils modifient les conditions de travail, section par section, dans les entreprises. Et là, ça marche. Et c'est...
Les jeunes actifs, parce qu'on dit beaucoup que les syndicats ont du mal à recruter chez les jeunes. Là, vous disiez qu'il y avait des jeunes actifs dans ces manifestations. C'est un terrain de réflexion pour les syndicats et une façon de reconquérir des jeunes actifs.
Bah, les jeunes actifs, et puis au-delà des jeunes actifs, les jeunes actifs dans les entreprises, mais aussi tout un monde dont on n'a pas parlé, mais qui est en périphérie, qui sont les ubérisés, les indépendants, toute une série de gens qui ont des carrières extrêmement hachées pour qu'ils travaillent. C'est quand même très, très compliqué, c'est une notion très éloignée. Mais commençons par les entreprises, commençons par le management, et puis travaillons sur le travail. Et ça, c'est ce que disent les syndicats.
Jeff Wittenberg, quand on entend tout ce qu'on vient de dire, on comprend tout à fait. Sondage Odoxa de novembre dernier, 61% des Français disent avoir hâte d'être à la retraite. C'est d'ailleurs un peu triste, comme si la vie commençait à la retraite. Exactement. Et qu'avant, c'était de la souffrance.
J'apporterai d'ailleurs un bémol ou une précision à ce qui vient d'être dit, c'est que bon, il y a le management, il y a l'expérience. Lorsqu'on se frotte aux réalités, lorsqu'on est conducteur de bus, on se frotte aux réalités du terrain, c'est usant, c'est fatigant et on a envie de partir. Mais il y a aussi, il faut être juste, il faut être honnête, beaucoup de Français, de salariés qui choisissent des carrières en pensant à plus tard. Moi, je me souviens d'avoir interviewé précisément un conducteur de la RATP il y a quelques années, au moment où il était question de changer de statut, et il m'avait dit, on nous avait vendu du rêve avec une retraite anticipée.
À 52 ans.
Voilà, je ne sais plus exactement à quel âge. Mais en tout cas, le mot « on nous avait vendu du rêve » m'avait frappé, c'est-à-dire que vous avez aussi, il faut quand même être honnête et le reconnaître, des gens qui choisissent des carrières déjà en pensant à la fin de la carrière. Donc, ils savent que leur travail va être aliénant ou qu'ils vont le vivre comme tel. Et c'est peut-être ça, et un gouvernement n'y suffira pas. C'est quasiment un sujet philosophique. C'est le rapport au travail. Et est-ce que le travail peut être aussi un plaisir ou pas ? Ou dans un grand nombre de cas, une majorité, visiblement, d'après le sondage que vous venez de citer, ce n'est pas un plaisir, c'est une aliénation à laquelle on a hâte de mettre un terme.
Alors, une réforme impopulaire, mais que le gouvernement entend bien faire passer. notamment en obtenant une majorité à l'Assemblée. Et pour avoir cette majorité à l'Assemblée, il faut que les votes LR soient au rendez-vous. Alors on sait qu'au début, Éric Ciotti avait dit pas de problème, les LR voteront cette réforme, sauf qu'on voit qu'au fur et à mesure que la protestation grandit, les députés LR ont de moins en moins envie de voter cette réforme. Je vous propose d'écouter Aurélien Pradier, c'est le vice-président des Républicains. Il était l'invité de Francis Letellier dimanche. Vous allez voir, il montre pas beaucoup d'enthousiasme envers cette réforme des retraites.
Une réforme des retraites, oui. Une réforme des retraites injuste, non. Et pour moi non plus, ce n'est pas négociable. Dès lors, si la Première ministre n'a pas entendu ce que nous sommes nombreux à dire à droite depuis quelque temps, que toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, que les femmes ne pouvaient pas être perdants de cette réforme, c'est qu'elle n'a rien entendu. Si tout cela n'est pas négociable pour Madame la Première ministre, alors je lui dis clairement, ce n'est pas négociable pour moi non plus. Elisabeth Borne a la tête dure, je l'ai aussi. La droite doit non seulement être rigoureuse sur les dépenses publiques, mais être juste avec les travailleuses et les travailleurs. La valeur travail, c'est une valeur de droite. Mon jeune frère est boulanger. Comment voulez-vous que j'aille voir demain mon jeune frère boulanger, qui sait plus que moi sûrement ce que c'est que l'effort et le travail, qu'il va devoir travailler plus pour financer, y compris ma retraite, moi qui ai commencé à cotiser plus tard. C'est insupportable.
Bon, Jeff Wittenberg, vous nous décrivez le jeu des Républicains. Les rats sont en train de quitter le navire.
Vous avez entendu travailleuse, travailleur, ça vous...
Arlette Laguiller.
Arlette Laguiller sort de ce corps. Voilà. Non, ce qui est très étonnant dans cette affaire, c'est que la droite... une partie, parce qu'Aurélien Pradier, il est élu du Lot. Vous citiez Cahors tout à l'heure. Ce sont des circonscriptions populaires, au bon sens du terme. Et ce sont des élus de droite qui ont souvent été élus de justesse aux législatives, dans des circonscriptions difficiles, qui auraient pu basculer vers le Rassemblement national et qui tiennent compte tout simplement de leur électorat. Parce que si ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils ont toujours défendu. Valérie Pécresse, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, elle-même défendait la retraite à 65 ans. Donc il est quand même compliqué de dire qu'à 64 ans, on n'est pas d'accord. Donc si la cohérence était la valeur cardinale de LR, évidemment, il n'y aurait rien à redire sur cette réforme, sauf peut-être à la durcir. Or, on entend ce genre de discours chez Aurélien Pradier, mais chez d'autres députés, Julien Dive, ils sont une dizaine à peu près, et aussi chez des députés de la majorité qui vont également dans leur circonscription, sur le thème, c'est une réforme qui est antisociale, et donc nos électeurs n'en veulent pas, et donc il y a une réalité de droite, du centre et évidemment de gauche. On écoute d'abord ce que disent les électeurs, et les électeurs, pour beaucoup, ils sont dans la rue aujourd'hui.
Oui, Sandrine Foulon.
Oui, c'est vrai. Quand on a interviewé Frédéric Souillot, qui est le secrétaire général de Force ouvrière, il nous a dit on a beaucoup préparé entre les deux journées, et on est allé voir les députés, les sénateurs. Ah. Et j'ai dit mais de gauche, et non, de droite, Renaissance et bien sûr LR. Et c'est exactement ça. Dans les circonscriptions, les gens râlent et c'est compliqué. Et ce que vous disiez tout à l'heure en préalable, que disent toutes ces manifestations locales? Mais elles disent ça aussi. C'est-à-dire que à Mans, à Cahors, à Mulhouse, partout, les députés, ils voient clairement ce qui se passe. Et c'est de plus en plus compliqué.
Ils pensent aux élections.
Mais ce que vous nous dites aussi, c'est que les syndicats ont cette stratégie maintenant pour faire échouer cette réforme des retraites, d'aller voir un par un les députés, y compris de l'opposition, et de les retourner comme une crêpe pour qu'ils votent contre.
Oui, ils sont même allés avec les... Ils ont dit, par exemple, on a sorti le bulletin de René-Paul Savary, qui est LR, voilà, qui a fait un rapport qui dit qu'il faut augmenter le taux d'emploi des seniors, et ils disent, mais nous aussi on est pour, c'est ce qu'on veut. Donc c'est assez étonnant tout ce qui est en train de se passer.
Leïla de Grand-Marmont.
Alors le lobbying syndical a toujours existé quand même. Il faut relativiser. Les rendez-vous avec des députés de droite, de gauche, a toujours existé. Mais là, la différence, c'est qu'on en parle beaucoup plus. Maintenant, on a parlé des enjeux de politique, je dirais politicienne. Dans ce que dit Aurélien Pradier, il y a une chose qui me paraît intéressante. Il parle de son frère, boulanger, qui paiera sa retraite à lui. Il ne dit pas que lui-même doit certainement cotiser beaucoup plus que son frère. Et il ne dit pas que c'est un régime par répartition. Ça, c'est un débat dont on ne parle pas, mais qui, en réalité, est un élément de grande différenciation entre droite et gauche. Cet enjeu de la retraite par capitalisation ou par répartition.
La capitalisation, les plus riches, ils mettent des noisettes de côté, ils en mettent beaucoup. Alors que dans la répartition, les plus riches surcotisent parce que leur retraite est ensuite plafonnée.
Alors le taux de remplacement effectivement est beaucoup plus faible.
Bas pour les plus
riches.
Plus on gagne d'argent,
moins le taux de remplacement, c'est-à-dire le montant de la retraite par rapport au dernier salaire, est important. La retraite par capitalisation, et ça c'est peut-être un grand changement par rapport à avant, peut-être que c'est un grand changement par rapport à avant, personne n'ose la remettre en cause publiquement, ou très peu, incidemment. Ça, c'est un élément de notre contrat social, à mon avis.
David Lisnard l'a vaguement évoqué.
Exactement. Ça surprend tout le monde. Enfin, c'est un sujet qui n'est pas forcément dans le débat aujourd'hui. Je pense que c'est quand même un élément intéressant sur notre contrat social que d'expliquer ça. Après, on a un enjeu, c'est que ce contrat social, il est à la fois collectif et individuel quand on est à la retraite. On va regarder ce que nous, on va pouvoir toucher plus tard. Et en même temps, le contrat, il est collectif parce que c'est la collectivité qui garantit l'avenir.
D'un mot, non, juste pour en revenir, parce que vous parliez de politique politicienne, mais il y a aussi la vérité des chiffres. C'est qu'il y a du monde dans la rue, mais ce n'est pas dans la rue ou pas dans la rue que la
c'est au Parlement. Réforme,
c'est le Parlement. Ouais. Et si vous avez aujourd'hui une douzaine de députés macronistes qui veulent s'abstenir ou ne pas voter, et la droite qui renâcle, enfin une partie... Il y a un problème.
Il y a le feu au Parlement aussi.
Et peut-être l'obligation pour le gouvernement, ce qui serait catastrophique, d'employer la méthode. On a parlé de l'article 47.1, on le découvre, mais c'est une sorte de copie, enfin différente un petit peu, mais de vote bloqué aussi comme le 49.3. Et si le gouvernement devait en arriver là, ce serait effectivement très compliqué.
Alors, la retraite, je propose cette pépite maintenant. La retraite à 60 ans, ça a existé. Ah. C'était la dernière grande conquête sociale, d'ailleurs, de François Mitterrand. Mitterrand, en 1982, la retraite était alors de 65 ans et François Mitterrand va la baisser à 60 ans. Imaginez-vous le choc dans la population, on ne part plus à 65 mais à 60. Eh bien, nous avons retrouvé ce micro-trottoir du 26 mars 1982. Vous allez le voir et c'est très surprenant. Eh bien, écoutez, à l'époque, les Français étaient contents, mais pas plus, et il y en a même qui étaient assez circonspects. On regarde cet extrait du journal du 26 mars 1982. C'était donc il y a 40 ans.
Excellent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Des 7 ordonnances adoptées hier en Conseil des ministres, la plus remarquée à sans conteste était celle prévoyant la retraite à 60 ans. Les réactions, généralement très nuancées, ont été nombreuses dans les syndicats. Mais l'homme de la rue, vous et moi, souvent ne sait pas trop quoi en penser.
Qu'est-ce que vous pensez de la retraite à 60 ans ?
Oh, j'y pense pas à la retraite à mon âge.
Ah, je trouverais même la donner avant. Hein. 60 ans, ça fait un peu mieux. Si on va en profiter.
Bah, ce serait bien si on pouvait l'avoir, mais...
Qu'est-ce que vous pensez de la retraite à 60 ans ?
Pas grand-chose.
Je sais pas. Monsieur, hein, j'ai pas le temps.
Bah, c'est une bonne chose, ça permet aux gens de se reposer un peu plus vite, c'est tout.
Ah, je n'étais même pas sûr d'avoir la retraite. Parce qu'on cotise pour la retraite, mais qui te dit qu'au jour où tu auras la retraite, que tu l'auras vraiment ? Il faut espérer, c'est tout. Un peu d'espérance, c'est un progrès, je trouve.
C'était une autre époque où peut-être que on idéalisait moins la retraite, on avait d'autres espoirs, je sais pas. Non, qu'est-ce que ça vous inspire
Ça m'inspire. C'est assez intéressant. Le dernier témoignage, en fait, c'est un témoignage qui est une grande constante. Il dit, qui te dit que le jour où tu partiras en retraite, tu l'auras vraiment. Je parlais de contrat social et c'est la difficulté de ce contrat social en fait. C'est-à-dire que la solidarité, elle joue dans l'instant. Et en même temps, c'est une promesse future. C'est quelque chose.
Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
Voilà. Et c'est quelque chose quand même d'assez compliqué à gérer par rapport à l'opinion publique, de savoir est-ce que on aura. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui disent si j'ai vraiment une retraite, c'est-à-dire que la crédibilité du régime. Et du futur, c'est quelque chose qui est interrogé.
L'espérance de vie n'était pas la même en 1982.
Il y avait moins de retraités, ça veut
moins
dire.
De retraités. Aujourd'hui, elle dépasse, je crois, plus de 82 ans pour
alors,
les femmes.
Alors, c'est 85 ans pour les femmes et 79
ans pour les hommes. Je pense qu'il y a 40 ans, donc c'était bien, bien inférieur. Et ce qui est frappant dans ce micro-trottoir, c'est que c'est globalement les jeunes qui disent « on verra plus tard ». Et la seule personne qui est assez proche de la retraite, elle est plutôt pour, hein, parce que c'est, on revient aux thématiques d'aujourd'hui. Plus on se rapproche de la retraite, pour certains, plus on est content si elle arrive plus tôt, hein, en gros.
Sandrine Foulon, l'acte 3, c'est mardi prochain. Est-ce que ça peut encore monter, la mobilisation?
Ah, j'ai pas de boule de cristal pour vous dire ça, mais en tout cas, les syndicats sont très confiants et ils peuvent au moins arriver à l'étiage d'aujourd'hui.
Ouais, alors, d'un mot, faut rendre l'antenne.
D'un mot, 72% des Français sont persuadés donc, que le gouvernement mettra en œuvre cette réforme. C'est l'un des enjeux. Est-ce que ça va bouger ou pas? C'est l'un des enjeux de la semaine prochaine.
Merci de nous avoir aidés à comprendre et à décrypter ce mouvement de mobilisation. Hier, 1 272 000 Français dans la rue contre cette réforme des retraites. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée, à demain.